Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort d'Aurélien Piogé. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Anne-Sophie Martin, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. La mère d'Aurélien, Bénédicte, ne croit pas au viol.
Aurélien est soupçonné de viol. Mais là, je dis, mais pas Aurélien. Aurélien, il est non-violent. Déjà, c'est dans sa philosophie de vie. Violer une fille.
Un viol inconcevable et un suicide impensable.
Je ne croyais pas au suicide. Et le fait qu'il ait reçu des coups, pour moi, c'était autre chose. Il y avait autre chose et il fallait qu'on sache.
La conviction de la famille se renforce encore quand, après le corps d'Aurélien, les gendarmes lui rendent son vieux camion de laitier allemand.
Maître Louis-René Pénaud, l'avocat du grand-père d'Aurélien.
Les premiers éléments qui vont troubler la famille, c'est évidemment les éléments manquants déterminants dans le camion d'Aurélien.
Jean-Jacques Piogé, le père d'Aurélien.
On a bien remarqué qu'il n'y avait pas l'appareil photo. C'était rigoureusement le même que le mien. C'était un appareil photo argentique de très bonne qualité qu'il avait acheté d'occasion.
Aurélien, il aurait vendu sa chemise et ses chaussures, mais l'appareil photo, non. Non, ça, c'était pas possible.
Puis l'autre élément manquant, qui là aussi est déterminant pour Aurélien, c'est son ordinateur. Il travaille ses photos, il les télécharge, il les met en forme. Sa forme d'art, il l'exprime grâce à cet ordinateur.
Et puis Aurélien se séparait non plus jamais de son téléphone. Il avait un vieux portable, mais il en avait un. Pas de téléphone non plus.
Mais il y a plus important encore que ces appareils auxquels Aurélien tenait tant. Un objet qu'il a toujours sur lui. Or, ni sur son nez, ni sous la pantille, ni dans son camion, ses lunettes ne sont nulle part.
Aurélien était très myope. Aurélien ne pouvait rien faire sans ses lunettes. Dès qu'il est réveillé, il tâte la table de nuit pour trouver ses lunettes. Et alors on nous dit qu'il a conduit son camion dans un champ, que... C'est faux. C'est pas possible. Il serait allé au fossé tout de suite. Il voyait rien. Sans lunettes, il ne voyait... C'était très très flou.
Les Piogé transmettent une ordonnance de l'ophtalmo et des photos d'Aurélien à différents âges aux gendarmes qui retournent sur le campement avec un détecteur de métaux.
On n'a pas retrouvé de lunettes, ça c'est une certitude. Donc c'était très peu probable qu'il ait pu conduire en ayant reçu des coups de son lieu de campement à la Jumelière jusqu'au lieu dit Gaudissart à Saint-Lambert-du-Laté. Qui plus est, en pleine nuit.
8 kilomètres. En cherchant les lunettes dans le feu de camp, les gendarmes ont quand même fait une découverte intéressante. Les restes carbonisés du téléphone d'Aurélien.
Ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est que c'est la famille d'Aurélien qui va apporter les premiers éléments déterminants de l'enquête. C'est la famille d'Aurélien qui va mettre le doigt sur la disparition d'éléments majeurs, d'éléments importants pour Aurélien. C'est la famille d'Aurélien qui va pointer la disparition des lunettes. Finalement, c'est la famille d'Aurélien qui relance l'enquête. Là où on avait juste un suicide, tout d'un coup, on a quelque chose qui, en tout cas, a tous les caractères de l'étrangeté.
Notre avocate décide de prendre rendez-vous avec le procureur. Et là, on apprend que l'enquête a failli être bouclée. Ça nous a tellement choqués. On a dit non, mais c'est pas possible, faut aller plus loin, faut faire d'autres investigations, on va pas s'arrêter là.
La famille n'est pas la seule à douter. Le 13 novembre, sans rien savoir des soupçons des Piogé, Sophie, la jeune femme qu'Aurélien aurait violée, contacte les enquêteurs. D'abord, pour cette histoire de viol. Le médecin qui l'a examinée n'a pas relevé de marque de violence. Et d'ailleurs, elle n'a pas porté plainte. Ce n'est pas elle, mais les vendangeurs qui ont parlé d'agression.
J'ai jamais dit à la police qu'Aurélien avait abusé de moi, non, à aucun moment. J'aurais dit clairement ce qui était vrai, que j'avais pas de souvenir s'il y avait eu et moi ou pas.
Maître Isabelle Guérin, l'avocate des parents d'Aurélien.
Ayant fait l'usage elle-même de stupéfiants, elle n'était pas non plus dans un état normal. Et à partir de là, ils lui ont fait croire qu'elle ait pu être violée. C'est pas elle qui le dit. Elle ne le dira jamais.
Et surtout, elle explique aux gendarmes qu'elle non plus ne croit pas au suicide d'Aurélien. Et elle sait bien pourquoi.
On ne se suicide pas quand on vient de rencontrer l'amour. Ça faisait longtemps qu'on se connaissait et non, ça m'avait jamais frappé avant. Aurélien, peut-être ça faisait plus longtemps. C'est vraiment assez vendange que vraiment je suis tombée amoureuse d'Aurélien. Je voulais me séparer de Lulu, je voulais pas le faire en pleine vendange. Je voulais qu'on prenne le temps à finir les vendanges et pouvoir parler calmement avec Lulu. Donc mes plans avaient forcément changé puisqu'on avait, on s'était un peu précipité ce soir-là. Forcément, oui, avec l'alcool aidant, on s'est pas retenu. Mais oui, on avait clairement décidé de partir ensemble. Mais c'était quelque chose de très très fort, hein. C'est sûr. Ouais. J'ai gardé son pull pendant des années. Ouais, j'avais juste un pull à lui.
Le 30 novembre 2008, sous la pression de l'avocate des Piogets, le procureur d'Angers ouvre une information judiciaire contre X pour homicide. C'est l'abandon officiel de la thèse du suicide. À partir de là, les parents d'Aurélien vont pouvoir se constituer partie civile et avoir ainsi accès aux pièces de l'enquête. Notamment au PV d'audition du vigneron, de sa famille, des vendangeurs et des copains qu'ils avaient invités à la fête. Et au fil de leur lecture, un détail dans le témoignage d'un certain Alexandre leur saute aux yeux.
Alexandre va dire une phrase qui aurait pu totalement passer inaperçue, et qui est d'ailleurs passée inaperçue, sauf pour monsieur et madame Piogé qui vont réagir.
On peut lire que Chloé m'a dit que l'ambiance n'était pas du tout bonne et qu'il fallait que je parte maintenant. Elle m'a proposé du café, que j'ai accepté, et il y avait encore un gars qui était arrivé en cours de soirée. Il s'agit d'un prénommé Toto. Je ne le connaissais pas, il était encore bourré. Ce qui me fait réagir, ce sont les mots de Toto, que moi je transforme tout de suite en Tintin, donc Landry Frias. Et là, je me dis effectivement, si Landry Frias est dans l'affaire, là ça change tout. C'était pour moi une évidence.
Personne ne veut en parler, et dans tout le début de l'enquête, il n'est pas là. C'est comme une ombre. Avant que, enfin, le fameux Toto soit identifié comme étant Tintin et comme étant en fait Landry Frias. Et là, on va s'apercevoir qu'il est central.
On en fait part tout de suite à notre avocate. Et elle a senti qu'à notre voix, que ça changeait tout. Dans notre esprit toujours, c'était évident qu'il y avait un meurtre.
La gendarme Gaëlle Moreau s'interroge.
C'était des faits quand même importants pour lesquels on les entendait. Donc pourquoi ne pas avoir, si on n'a rien à se reprocher, ne pas donner le nom de toutes les personnes présentes au moment des faits, quoi. Donc effectivement, ça veut dire que les gens se sont mis d'accord sur le terrain entre eux pour taire la présence de Frias. Après, forcément, ça remet en doute tout ce qui s'est passé ce soir-là par rapport aux personnes présentes, par rapport aux faits concernant Aurélien.
Dominique, un personnage de plus vient de faire son entrée, mais rappelez-nous déjà, qui est sur le campement ce soir-là?
Alors, Maurice, le vigneron, c'est normal, on est chez lui. Sylvie, sa fille, Aurélien Piogé, la victime, Aurel. Sophie Rouliette, c'est la petite amie de Ludovic, Lulu, qui n'est pas là sur le campement ce jour-là, et c'est elle qui, pendant la nuit, va se rapprocher d'Aurélien. Il y a Chloé, Clochette, c'est la petite amie de Maxime Deschamps, alias Pimousse. Claude, le patriarche. Alexandre, c'est lui qui va balancer aux enquêteurs la présence de Frias ce jour-là. Et Frias, le voilà, c'est lui, Landry Frias, le fameux Tintin. Alors, Aurélien a connu Sophie et son copain Ludovic en 2006. Et l'année suivante, il a fait la connaissance de tout le reste du groupe. Ils ont tous entre 20 et 30 ans, sauf lui, Claude Boulet, qui a 43 ans.
Est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires ?
Alors, tous les deux, oui. Claude Boulet, pour infraction à la circulation routière, rien de très méchant. Mais lui, Landry, il a un casier pour vol, délit de fuite, destruction de biens chez une de ses ex-copines, et aussi pour menace de mort sur cette même personne.
Et le juge va maintenant essayer de savoir pourquoi les vendangeurs et leurs invités à la fête ont tous caché la présence de Landry Frias. Les gendarmes placent tout le monde sur écoute et découvrent que le groupe leur a fait une autre cachotterie, et de taille. Landry Frias, le fameux Tintin, c'est le petit ami de Sylvie, la fille du vigneron. Et le patron ne portait pas ce saisonnier dans son cœur.
Landry était déjà venu en vendange avant. Il avait tendance à amuser un peu la gafferie. J'ai rien contre 2-3 minutes, puis après on fait notre travail. Mais bon, lui, c'était assez souvent. Deux fois le matin pour se lever, bon, comme il faisait la fête, c'était très compliqué. Tout le monde était prêt, sauf lui qui était encore en train de dormir. Et bon, j'ai dit, moi non, c'est pas possible. En moi-même, j'ai dit, bon, on le reprendra pas. Hein.
Plus question de vendange, Landry Frias fait la saison des pommes ailleurs. Mais il dort chez Maurice, à la Chênaie, dans la chambre de Sylvie. Alors pourquoi cacher sa présence lors de la fête ? Les gendarmes interrogent à nouveau toute la famille du vigneron et les langues se délient.
Maître Alain Fouquet est l'avocat de Sylvie, la fille du vigneron.
Une réunion va se tenir à la Chênaie. Sylvie lui dit, voilà, il y a eu le viol de Sophie par Aurélien. Ensuite, les garçons ont corrigé, battu Aurélien. Frias, il est présent à la réunion. Et il explique que, mais il faut surtout pas dire que les violences, il les a commises. Parce que lui, il sait pertinemment que il a déjà été condamné pour des violences. Il a un casier judiciaire. Frias a peur. Et il va se servir, naturellement, de sa relation avec Sylvie pour dire aux parents, bah, écoutez, en gros, vous savez, moi, si j'ai des ennuis, votre fille va en avoir aussi.
C'est pour cela que le vigneron a décidé de mentir aux gendarmes.
Maurice, le vigneron.
J'ai dit que c'est moi qui ai pris l'initiative. Comme je voulais sauver ma fille par rapport à Landry, j'ai dit qu'il n'était pas sur le site.
Visiblement, l'avertissement de Frias s'est passé 5 sur 5. Tout le monde a menti. Le juge décide donc de réentendre toute la bande. Encore faut-il remettre la main sur les vendangeurs.
La particularité, c'est que c'est des gens sans domicile fixe, donc qui vivent dans leur camion, donc qui sont très mobiles. Et il a été déterminé qu'effectivement, certains faisaient des saisons dans les Pyrénées, notamment à Cotteret.
Cotteret, dans les Hautes-Pyrénées. C'est là que les gendarmes logent Landry Frias et Sylvie, mais aussi Maxime Deschamps et Chloé.
La vie continue pour eux. Le décès d'Aurélien n'a rien changé. On a continué les saisons, continué à faire des fiestas. La fille du viticulteur continue sa relation amoureuse avec Landry. On continue à voir les copains. Finalement, on est passé à autre chose.
Le 3 mars 2009, à 6h du matin, 5 mois après la découverte du corps d'Aurélien sous la pantie, c'est le coup de filet. Après plusieurs jours de surveillance, pour être sûr d'arrêter tout le monde en même temps et éviter les fuites, 13 personnes sont interpellées.
L'adjudant Ronan Lepape mène les opérations.
C'est moi qui donne le top à l'ensemble des équipes. Le but après, c'est de coordonner toutes les auditions. Vous posez les mêmes questions à tout le monde au même moment.
Toutes les brigades de gendarmerie qui ont procédé aux interpellations restent en contact au fil des heures et des déclarations.
Au départ, ils maintiennent tous la même version, c'est-à-dire qu'ils avouent, ils reconnaissent parfaitement avoir donné, porté des coups à Aurélien, mais c'était toujours pour lui donner une leçon.
En fait, de leçon, c'est un supplice, une journée de torture qu'Alexandre va raconter.
Il va se livrer dans une audition particulièrement poignante, dans laquelle il pleure énormément. On sent que pour lui, c'est le moment où enfin il peut révéler une vérité qui qu'il porte depuis des mois.
Concernant le matin, quand j'ai pris mon café, je me suis assis à côté de Toto, près du feu. Il a commencé à me parler de Aurélien, qui aurait violé Rouliette. Il m'a dit qu'il avait tabassé Aurélien dans la nuit.
C'est la première fois qu'on entend parler d'un tabassage. Landry me fait peur. Je ne veux pas qu'il sache ce que je dis. Il va me tomber dessus. On parle de quelqu'un qui est en garde à vue, entouré de gendarmes, entouré de gens qui peuvent le protéger et qui, encore à ce moment-là, a peur que Landry découvre ses propos. Il est taré. Il m'a dit le matin que quand il a commencé à frapper, il voit rouge et qu'il ne peut plus s'arrêter. « Qui a frappé Aurélien ?» demande le gendarme. « Toto, c'est sûr. Landry, c'est Toto. J'ai vu aussi Claude donner un coup de pied dans la couette bleue, dont je vous ai parlé tout à l'heure. »
Je me rappelle aussi que Toto a pris un bâton ou quelque chose comme ça, noir. Il a tapé sous la couette, j'ai entendu Aurélien gémir. C'était entre le gémissement et le cri. Ensuite, Toto disait « Tu violes les nanas, je vais t'apprendre moi. »
« Je vais te mettre le bâton dans le cul. » Question du gendarme. « A-t-il commis l'acte ?» Réponse. « Je l'ai vu faire le geste en tout cas. » Il a soulevé la couette, il a mis le bâton et il poussait. On voit l'horreur de cette situation.
Toto a enlevé la couette et a pris Aurélien. Il l'a amené derrière le camion de Claude et il s'en servait de chiottes. Ils lui ont pissé dessus. C'est horrible comme image.
Comment vous êtes-vous rendu compte qu'Aurélien était sous la couette, demande le gendarme. C'est Toto qui me l'a dit. Il m'a dit « Tu vois le petit paquet bleu ? C'est Aurélien. » En montrant la couette. Il était haineux, ce gars-là. Les faits qui sont décrits sont des faits absolument abjects. Où on transforme un être humain en objet de sadisme. Il était tout fier, nous dit Alexandre. Il y a de la fierté chez Landry à montrer les actes de torture qu'il commet.
Un par un, les vendangeurs sont confrontés au récit d'Alexandre. Et ce qui se dessine, c'est un trio de bourreaux. Ils sont trois à avoir frappé, humilié et torturé Aurélien. Landry Frias, Claude Boulet, Maxime Deschamps. Cinq mois après la mort d'Aurélien, les trois hommes finissent par reconnaître qu'ils sont allés au bout de l'horreur. Ils l'ont ligoté, pieds et poings liés ensemble, dans le dos. Ils l'ont caché sous une bâche pendant toute la journée du samedi. Séquestré, battu, humilié. Et le calvaire d'Aurélien ne s'est pas arrêté là.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la mort d'Aurélien Piauget. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour. C'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.